Bonjour à tous. Robert Badinter à la recherche du temps perdu et d'un monde disparu. Dans Idis, publié chez Fayard, un livre hommage et récit intime, il marche sur les pas de sa grand-mère maternelle, partie de Bessarabie pour Paris. Un destin juif et européen, une destinée singulière qui interroge notre rapport à la mémoire personnelle et collective. L'ancien garde des Sceaux sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, on a appris hier la mort de Bernardo Bertolucci, réalisateur du Conformiste, de Little Buddha ou encore du Dernier Empereur, le film aux 9 Oscars sorti en 1987. Obsessionnel, provoquant, transgressif, comme en témoigne le tournage d'Un Dernier Tango à Paris, Bertolucci n'en reste pas moins une figure du cinéma italien. Aujourd'hui, retour sur son œuvre avec l'historien du cinéma Jean Gilli et le chef opérateur Darius Congi. Ils avaient travaillé ensemble sur Beauté volée en 96. Ils sont tous deux nos invités jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un grand du 7e art qui a tourné avec Marlon Brando et Maria Schneider dans Un Dernier Tango à Paris, tache noire aujourd'hui dans sa filmographie, avec Gérard Depardieu et Robert De Niro dans 1900, Novecento, Jean-Louis Trintignant aussi dans Le Conformiste, une figure du cinéma italien, un cinéaste provoquant et surtout bien décidé à mettre toutes ses obsessions à l'écran. Bonjour à vous Darius Congi. Merci d'être avec nous. Et bonjour à vous, Jean Gilli.
Bonjour.
L'un des derniers représentants de l'âge d'or du cinéma italien. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui de Bernardo Bertolucci, Jean Gilli. Il a été marqué par son époque.
Ah, fortement. C'est un garçon qui est né en 41, donc qui a connu l'Italie de l'immédiate après-guerre, qui a adhéré au Parti communiste. Il raconte d'ailleurs que c'est au contact des paysans de l'Émilie, de son Émilie natale, près de Parme, qu'il a fait ses débuts dans la politique, en découvrant l'engagement de ces paysans, et il a compris, très jeune, qu'il serait communiste, et que même il était déjà communiste.
D'ailleurs, votre première rencontre avec lui se fait autour du film 1900 à Cannes. Et 1900, c'est la fresque épique sur cette naissance aussi du communisme. On y voit sa conception à la fois du cinéma. On voit aussi comment ce cinéaste a toujours été hanté par le passé fasciste de l'Italie. C'est un gardien d'une mémoire.
Oui, Novecento, c'est un film somme. C'est... Bon, si on me posait la question quel est le film le plus important de Bertolucci, j'aurais beaucoup de peine à répondre parce que ces films sont très nombreux, vous en avez d'ailleurs rappelé un certain nombre, mais je dois dire que peut-être comme engagement, comme durée de tournage, puisque c'est un film en deux époques, très long, il fait plus de 3 heures, il a caressé d'ailleurs un moment l'idée de tourner une troisième partie sur l'après-guerre, puisque le film parcourt toutes les années de la période fasciste et les années de guerre, et il a eu un moment l'idée de tourner une troisième partie sur l'après-guerre en Italie, qui est une période passionnante aussi. Donc c'est peut-être le film dans lequel il s'est le plus raconté lui-même. Parce que d'abord, il tournait dans ses terres, il tournait dans la campagne parmesane. Il avait rassemblé un cast incroyable d'acteurs américains, français, italiens. Et pour homogénéiser tout ça, il fallait vraiment un cinéaste ayant un tempérament tout à fait étonnant en racontant à la fois l'histoire des prolétaires de sa terre et des aristocrates, des grands bourgeois de cette terre, des propriétaires et les paysans.
C'est un cinéaste éclectique. Il est passé du cinéma d'auteur aux grosses productions, d'un cinéma plus personnel comme Le Dernier Tango ou Les Innocents, aux grandes fresques, on l'évoquait comme 1900 et surtout Le Dernier Empereur. 6 mois de tournage, des milliers de figurants, près de 10 000 costumes, un film tourné en partie dans la cité interdite, c'était une folie.
Give me some more whiskey.
Oh, I thought you weren't drinking.
But I'm thirsty now and I want some more drink.
All right. I think that's a good idea. Wait a minute. Because you're really beautiful. Wait a minute.
No.
I'm sorry. I'm terribly sorry. I didn't mean to spill my drink.
Oh, let's have a toast to our life in the autumn.
No, fuck all that. Come on. No, hey, listen. Let's drink a toast to our life in the country.
Huh? You're a nature lover? You didn't tell me that.
Oh, for God. I'm nature boy. Can't you see me with the cows and the chicken shit all over me?
Oh, yeah.
Huh?
To the house of the cows.
Cow.
I will be your cow, too.
Man, listen. I get to milk you twice a day. How about that?
I hate the country.
What do you mean you hate the country?
I hate it. I prefer to go to the hotel.
Camarade, tu fais forcément une erreur, je le connais bien. C'est un homme beau.
Qui es-tu, toi ?
Je suis jardinier.
Sois des nôtres, camarade, ou va te faire foutre.
Mais qu'est-ce qu'il a fait ?
Cet homme est accusé.
Accusé de quoi ?
Valet de l'impérialisme.
Élément révisionniste, pourri de droite. Confesse tes crimes.
Je n'ai rien à confesser.
Prosterne-toi devant le président Mao. Confesse tes crimes.
Je n'ai rien à confesser.
Prosterne-toi. Confesse tes crimes.
Mais non. Lui, c'est un maître. C'est un bon maître. Vous ne pouvez pas lui faire ça.
Attends.
Et vous vous trompez. C'est un bon maître.
Une scène de danse, extrait du dernier tango à Paris avec Maria Schneider et Marlon Brando en VO, puis un extrait du dernier empereur en VF, Darius Conji. Est-ce qu'il maniait pour vous, Bertolucci, les deux registres avec autant d'aisance ?
Les deux registres.
Les deux registres entre ce cinéma, ces grandes fresques de grande ampleur, comme avec Le Dernier Empereur, ce qu'on évoquait, et d'autres films plus personnels, presque plus intimistes, un cinéma d'auteur comme Le Dernier Tango à Paris. Donc
Bernardo était très à l'aise avec la caméra. Il mettait en place la caméra, il tenait à mettre la caméra en place lui-même avec son chercheur de chant. Il se baladait comme ça dans le. Il se promenait dans les décors et près du visage de ses comédiens. Ou des doublures en préparation avant de même que les comédiens viennent. Il était très à l'aise avec la caméra. Et dans Beauté volée, on a fait des séquences avec, on a fait une séquence de fête comme ça où il y a beaucoup de monde, où il y a un défilé de monde d'invités qui arrivent dans cette villa Zhejiang. Je me suis rendu compte là qu'il était très à l'aise pour trouver la clé pour mettre la caméra où il fallait pour raconter l'histoire, pour l'ouverture de la fête. Et il était aussi très à l'aise pour les scènes très intimes, comme il y a aussi dans le film. Il était vraiment à l'aise dans les deux. Il discutait parfois des mouvements de caméra, de comment moi je voyais plutôt la scène. Mais en règle générale, il mettait la caméra en place. Il aimait trouver le cadre.
Jean Gilly, vous l'aimez dans les deux registres, vous ?
Moi, je trouve qu'il est particulièrement critique. À l'aise, justement, dans le registre intimiste. Prima della Rivoluzione, qu'il a lancé internationalement,
1964.
Le film ayant été présenté à la Semaine de la Critique de Cannes, qui d'ailleurs ne manque jamais, quand la Semaine de la Critique se retourne sur son histoire, ne manque jamais de rappeler que c'est elle qui a présenté le film de Bertolucci. Et on avait découvert une espèce de cinéaste surdoué. Hein, c'était un poète, c'était un écrivain, c'était un cinéphile qui adorait le cinéma, notamment le cinéma français.
Très cinéphile, oui.
Très, très. Et donc là, il s'était épanoui dans ce film. Et ensuite, on a découvert qu'il était éminemment à l'aise dans les superproductions, avec en face de lui non pas un couple ou une seule personne, mais des masses, des figurants, de nombreux comédiens, des séquences à plusieurs, qui sont des séquences, vous l'avez rappelé, a priori difficiles à régler pour que chacun puisse se faire remarquer et occupe la place qui lui revient. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, dans un entretien que j'avais fait avec lui, il me disait, dans le fond, on fait toujours le même film, et quand on regarde l'ensemble des films que j'ai tournés, on peut les considérer comme un seul et unique film.
Quel était le fil conducteur pour lui?
Bah, le fil conducteur, c'était sa présence. Mmh. C'était sa manière d'aborder les sujets de l'intérieur, toujours de l'intérieur. C'est pas quelqu'un que, même quand il va en Chine, il regarde pas ça de, comme un étranger. Il regarde en essayant d'entrer dans la culture chinoise. Donc, cette espèce de récit continu, et je trouve qu'aujourd'hui, avec malheureusement avec la tristesse de sa disparition, on le ressent encore plus, la continuité de son travail, depuis La Coma l'Essèque, sur un scénario de Pasolini, quand même, dès le départ, jusqu'à son dernier film, intimiste, Toi et moi, tourné dans un hangar à proximité de son domicile, parce qu'il n'avait plus la possibilité de se déplacer facilement. Tout ça, c'est une espèce de grand récit dans lequel il est difficile de dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Non, c'est l'œuvre de Bertolucci. Quoi.
Bernardo Bertolucci, un cinéaste cinéphile, Jean Gilly, vous l'évoquiez, comme son père qui avait fondé un ciné-club du côté de Parme. Il voit tout, il fréquente assidûment la Cinémathèque à Paris. Il fait d'ailleurs ses débuts avec Pier Paolo Pasolini, assistant sur Hackathon en 61. Écoutez Bertolucci évoquer cette filiation avec Pasolini.
C'est pas nous qui choisissons les choses, c'est plutôt les choses qui choisissent nous. Un jour, j'habitais dans la même maison où habitait Pasolini aussi. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur un jour. Il m'a dit, je vais commencer mon premier film dans quelques mois, est-ce que tu veux être mon assistant? J'ai accepté, évidemment, et l'expérience fut assez extraordinaire parce que moi j'ai assisté, évidemment, à la naissance d'un metteur en scène. Mais j'ai assisté en même temps, dans quelque sens, à la naissance du cinéma. Parce que pour Pasolini, faire son premier travelling, c'était découvrir un langage nouveau. Un an après, j'ai fait mon premier film.
On écoutait Bertolucci évoquer sa filiation avec le cinéma de Pasolini. Ils vont pas tarder à tourner ensemble l'année suivante pour son premier film, Les Recrues, celui de Bertolucci, pour voler Rome à Pasolini, dit Jean-Luc Douin dans Le Monde. Apparemment, il aurait eu cette expression. Vous nous racontez, Jean Gilly, que ce film, Les Recrues, premier en 62 de Bertolucci, a été réalisé sur un scénario de Pasolini. Son cinéma restera pour vous, Darius Conji, très marqué par cette grammaire visuelle de Pasolini?
Oui, je pense qu'il était marqué. Quand j'ai rencontré Bernardo, il m'a très rapidement, il m'a parlé de Pasolini, sa rencontre avec Pasolini et de l'importance. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à revoir aussi les films de Pasolini, Zé Hackathon, et qui est devenu un film très important pour moi. Mm. Oui, il était je pense qu'il était marqué par Pasolini et marqué par Godard aussi, par Jean-Luc Godard. Pour lui, il disait toujours que le français était la langue du cinéma. Moi, je disais, j'ai appris l'italien au lycée pour travailler avec les Italiens, pour travailler dans le cinéma italien. Et je disais, mais pour moi, la langue du cinéma, c'est l'italien. Et riait, il disait, mais non, moi, la langue du cinéma, c'est vraiment le français.
D'ailleurs, on l'a souvent attaché à la Nouvelle Vague, hein, dans cette filiation, ouais. Cette affection aussi de cinéma. Ouais. Vous évoquez souvent son
partenaire.
Son talent aussi dans la composition de l'image, dans la maîtrise de la lumière. Est-ce qu'il avait une manière très française ou somme toute finalement très italienne de faire entrer la lumière dans ses films?
C'est-à-dire qu'il vous faisait, une fois qu'il vous faisait confiance pour la lumière, il se donnait complètement, il vous laissait complètement faire la lumière, mais il fonctionnait sur un mode très émotionnel. Il avait besoin de sentir la lumière d'une façon presque physique, de cutané physique. Et il me parlait toujours de quand il me parlait de la lumière, il m'en parlait comme ça. Il avait besoin que ça soit quelque chose de très émotionnel, de très 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 chaud, que les acteurs puissent ressentir cette atmosphère. C'est comme ça qu'il fonctionnait, pas d'une façon technique.
Vous avez été son chef opérateur, on le disait, sur un film, Beauté volée, en 96. Son chef-op attitré, c'était Vittorio Storaro. Hein. Il a été inspiré par Pasolini, il a été inspiré par Godard, mais aussi par des écrivains comme Alberto Moravia, dont il a adapté Le Conformiste, son roman éponyme en 70. Avec La Stratégie de l'araignée, ces deux films autour du fascisme, deux claques pour vous, Darius Conji. Je vous propose d'écouter les mots de Vittorio Storaro autour de ce film. De leur collaboration.
Et lorsque Bertolucci m'a parlé du projet de Conformiste, nous n'avions pas beaucoup de temps pour en discuter. Et j'ai eu la sensation qu'il fallait distinguer la partie consciente et inconsciente du personnage grâce à la lumière et à l'ombre. Et donc, j'ai proposé à Bernardo d'utiliser les persiannes qui permettent ces rayures des lumières. Et je ne savais pas que Stefania Sandrelli aurait eu cette robe de Gigi Marini à rayures. Je ne le savais pas parce que je ne l'avais pas encore rencontré, nous n'avions pas vraiment préparé ce projet. Et Bernardo l'a beaucoup apprécié. Donc, j'ai voulu réaliser cette distinction nette entre lumière, ombre, conscient, inconscient.
Dans cette scène, cette archive, Vittorio Storaro évoque cette scène du conformiste où la lumière permet,
oui, une scène incroyable.
D'exprimer, ouais. D'explorer l'inconscient du personnage dans ce jeu de lumière.
C'est une scène qui m'a ébloui. J'ai vu le film, c'est ma grande sœur qui m'a emmené, qui était très cinéphile quand j'étais enfant, qui m'a emmené voir les premiers films. Et c'est un des films que j'ai vu très très tôt. J'ai vu Le Conformiste trop tôt même. Parce que il m'est arrivé dessus comme un météore. J'étais complètement abasourdi à la fin. Et cette scène, je m'en suis souvenu parce que c'était une scène vraiment qui m'avait ébloui avec la musique. Une scène d'une beauté, d'une sensualité incroyable avec le travail de la lumière et de décor.
Jean Gilly, Le Conformiste, c'est un film d'ailleurs qui vous a marqué tous les deux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous raconte des obsessions de Bertolucci ?
Il nous raconte une certaine ambiguïté qui est, à mon avis, une des clés d'approche du cinéma de Bertolucci, l'ambiguïté. Alors c'est l'ambiguïté politique, c'est évidemment l'ambiguïté sexuelle. Qu'il essaie de représenter, qu'il essaie de tirer de lui-même, toute l'ambiguïté aussi de ses rapports avec Pasolini. Avec Pasolini, vous savez, quand ils tournaient à Catone, et le matin, ils partaient, puisqu'ils habitaient au même endroit, ils partaient sur le plateau en voiture ensemble. Et cette demi-heure qu'ils passaient tous les matins, c'était une demi-heure d'échange où notamment ils évoquaient les rêves qu'ils avaient faits dans la nuit, donc la part de l'inconscient, l'introduction de l'inconscient, comme une espèce de nourriture pour ce qu'on allait ensuite tourner, selon un plan de travail qui était relativement serré, puisque c'était pas un film à très gros budget. Et donc il y a eu une relation, vous savez, sur un plateau, le rapport entre le cinéaste et le premier assistant, c'est un rapport fondamental, avec le chef opérateur bien sûr, mais là il y a un peu une triade. Et comme on a quand même en présence, évidemment, Bertolucci, quand il va sur le plateau avec Pasolini, ce n'est encore qu'un Bertolucci débutant. C'est un illustre inconnu, mais c'est quand même Bertolucci, quoi. Donc, autrement dit, Pasolini avait une certaine intuition des qualités et justement de cette richesse d'échange possible. D'où, à mon sens, cette clé de lecture qui est l'ambiguïté que l'on retrouvera dans Le Dernier Tango à Paris, bien entendu, et qu'on retrouvera même en filigrane, parce que c'est moins évident dans les grandes superproductions, type Little Buddha ou Le Dernier Empereur.
La part des rêves et de l'inconscient qu'on retrouve chez d'autres cinéastes avec lesquels vous avez travaillé, Darius Conji, on pense évidemment à Woody Allen, cette importance de retransmettre à l'écran ce qu'on peut avoir dans la tête. Alors un cinéaste hanté par la psychanalyse, la culpabilité d'abord du milieu d'où il vient, d'un milieu petit bourgeois, plutôt privilégié, lui le communiste, la perte de l'innocence de l'enfance aussi qu'on retrouve dans Prima, dans La Tragédie d'un homme ridicule ou encore dans Le Dernier Empereur, la quête du plaisir, l'auscultation de tous ces désirs inavoués, transgressifs, refoulés du Dernier Tango à Paris, à Beauté volée jusqu'au Conformiste. Et puis, on dit souvent de Bertolucci qu'il était un cinéaste du conflit père-fils, du conflit homme-femme. C'est en permanence un retour aux origines qui se joue dans son cinéma, Darius Conji.
C'est une question, j'espère, c'est plus une question plus pour
Jean Gilly.
Pour Jean plutôt.
Oui, non, mais la question du conflit, je crois que c'est quelqu'un qui a été en conflit avec ses propres origines, ça, il n'y a pas de doute, vous l'avez rappelé, c'est quelqu'un qui fait partie de cette culture italienne où l'on voyait des catholiques être communistes. Hein, ça aussi, c'est déjà au départ une espèce de contradiction absolue, a priori excommunié en tant que communiste et parfois catholique. Je pense à une figure comme Zurlini, qui est un autre très bon exemple de ces cinéastes qui ont fait un cinéma très travaillé du point de vue de la forme et qui avait des convictions politiques très fortes tout en étant catholique. Enfin, c'était... Donc Bertolucci, je crois, avait des comptes à régler. Et peut-être d'abord avec lui-même. D'abord avec son statut, en plus son statut de privilégié. Quand il va à Hollywood et qu'il reçoit cet Oscar, il y a des photographies où on a l'impression que c'est une sorte de triomphe à l'antique.
Neuf, je crois.
C'était absolument incroyable. En plus, comme américain, faut pas oublier que le film n'est pas primé comme meilleur film étranger, il est primé comme meilleur film américain. Mmh. Donc c'est les Oscars les plus importants qu'il reçoit de meilleurs films et de meilleurs cinéastes. Donc même lorsqu'il est là, dans le fond, il est en conflit, parce que c'est pas sa culture que d'être couvert de gloire, de décoration, à la limite de breloque, c'est pas sa culture, et pourtant il le vit, quoi. Donc c'est assez terrible, à mon sens, que d'être confronté à cet univers de Hollywood, alors que lui, il vient de la Bassa, il vient de Parme, il vient d'une famille d'exploitants agricoles. Certes d'un père qui est un intellectuel, son père était poète, est écrivain, est journaliste, critique de cinéma, il écrit dans le quotidien de Parme, il amène son fils au cinéma d'ailleurs, il le fait découvrir le cinéma, et il lui présente Pasolini, parce que Pasolini vient chez les Bertolucci pour rencontrer Attilio, le père.
Vous évoquiez,
Et son frère Darius aussi. Conji.
Son frère aussi était un petit Giuseppe. Peu 4 ou 5 ans plus jeune, qui est mort d'ailleurs il y a au moins 2 ans. Et les frères avaient d'ailleurs, quand j'ai vu Bernardo une des dernières fois où je l'ai vu, il me disait qu'il avait beaucoup de peine à se remettre de la disparition de son frère, parce qu'il y avait une très très fort échange. Son frère était peut-être plus cérébral, moins sanguin que lui, quoi. Traitant des sujets parfois très forme et de manière plus indirecte, moins frontale. Mais il y avait une profonde solidarité, une profonde compréhension entre les deux frères.
Oui, il était venu nous voir plusieurs fois sur le tournage. Il était très proche. Il semblait très
Darius Conji. Vous évoquiez son rapport charnel au cinéma, le rapport aussi qu'il avait avec sa caméra, toujours en liberté, une liberté de mouvement. Oui. Écoutez-le parler de cette relation qu'il entretenait avec la caméra. C'était en 2013 dans l'émission Hors Champ.
Je me sens la caméra. C'est-à-dire, dans mes films, je crois, la caméra devient l'œil d'un personnage invisible qui n'est pas là, mais qui est avec les personnages du film et qui est présent. Donc, je filme avec un certain amour. Et je trouve que tous mes films sont aussi des histoires d'amour. Pas nécessairement l'amour physique, mais c'est des enchantements avec quelqu'un. Si je ne peux pas tomber amoureux d'un acteur ou d'une actrice, le film est un danger.
Dans Beauté volée, la caméra suit d'ailleurs l'actrice Liv Taylor, avec un rapport presque amoureux, mais voyeuriste aussi, de cette caméra qui est partout.
Ouais. Par moments voyeuriste, oui. On dessinait des grands plans séquences comme ça qui... Dès son entrée, dès le début du film d'ailleurs, on l'a filmé en vidéo 8, qui était le format de vidéo à l'époque, dans l'avion, dans le train. Et ensuite, on la suivait au moment où elle rentre dans la maison. Et c'était un grand plan séquence comme ça, qu'il découpait par la suite. Parfois, il lui arrivait de découper son plan séquence, mais il aimait beaucoup tourner librement, que la caméra suive les acteurs du début à la fin de l'histoire d'une séquence.
Jean Gilly, transgressif, provoquant, voyeur, dans un dernier tango à Paris, il est allé quand même trop loin. Il voulait certes filmer cette pulsion de vie à travers la frénésie sexuelle de ce veuf quadragénaire américain joué par Marlon Brando, mais il l'a quand même fait au détriment d'une jeune actrice, c'était Maria Schneider, piégée dans cette séquence violente et humiliante. On évoque aujourd'hui cette scène de viol symbolique que Brando et Bertolucci avaient prévu de tourner
sans l'en informer, ça a coûté très cher, non seulement à sa carrière d'actrice derrière, mais surtout à son ressenti de femme. Elle a souvent raconté ce qu'elle a vécu comme une humiliation.
Je crois qu'elle mettait tout au service du film. Bon, le fait de se mettre au service du film pouvait lui permettre d'être transgressif. Et donc, pourquoi dans cette séquence, il aurait pu préparer Maria Schneider en lui expliquant ce qui allait se passer, ce qui était prévu. Il ne lui dit pas. Et donc, elle ressent la situation de façon extrêmement traumatisante. Et lui, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il pense que si elle est prévenue, ses réactions, son visage ne seront pas les mêmes. Ils seront un peu homologués. Alors qu'au contraire, là, dans la surprise, il y a une authenticité qu'il n'aurait certainement pu atteindre s'il avait organisé les choses en décrivant ce qui allait se passer. Donc, aucun scrupule en un certain sens. Quitte même, finalement, il l'a fait, il l'a regretté, il s'est même excusé de cette situation. Mais il y a un autre exemple. Pendant le tournage du conformiste avec Trintignant, Trintignant et Nadine Trintignant sont à Rome, ils ont une petite fille qui a quelques mois et qui meurt de mort subite. Il y a la mort du nourrisson. Eh bien, le tournage n'est pas interrompu, quoi. Alors Trintignant accepte, mais il est bouleversé quand même. Il accepte de continuer à tourner aussi comme façon de réagir à ce drame épouvantable. Mmh. Vous vous levez le matin, vous allez chercher votre enfant, il est mort dans son berceau. Effrayant. Or, Trintignant raconte qu'il est probable que, mais à mon avis c'est pas probable, c'est certain, que Bernardo a continué à faire le film parce qu'évidemment il utilisait la douleur de Trintignant qui se voyait sur son visage pour donner encore plus d'intensité du personnage dans le film. Hein? Donc rien n'était, toutes les transgressions étaient possibles pour obtenir un résultat qui était pas toujours facile précisément à obtenir. Et on le voit très bien dans Le Dernier Tango où c'est un peu le sommet de cette liberté qu'il s'octroie dans la représentation de cette relation sexuelle entre Maria Schneider et Marlon Brando.
Et là, c'est les années 70, hein, 72, ouais. La sortie du Dernier Tango. Ouais. Vous dites que c'est le sommet, après il a évolué, il y a quelque chose qui a changé, l'époque peut-être aussi.
L'époque change, bien sûr, et puis il est séduit par la possibilité de tourner avec de très gros moyens, se retrouver à la tête des entreprises que sont le Dernier Bouddha ou même le Théo Sahara, avec toute l'infrastructure hollywoodienne, pour un cinéaste européen, pour un cinéaste amoureux du cinéma, ce sont des conditions tout à fait exceptionnelles. Et c'est une expérience qu'il avait envie de vivre. Et de fait, il l'a vécu.
Mais déjà 1900, c'est après le Dernier Tango, non?
Oui, non, 1900, c'est avant.
Le tournage est avant?
Le tournage est avant le Dernier Tango, 1900. Et 1900, c'est déjà...
Et le film sort en 75.
Hein. C'est déjà un énorme film. Et d'ailleurs, il dit lui-même que c'était amusant pour un communiste que d'avoir à sa disposition les moyens du grand capitalisme américain.
Ouais. Jean Gilly, Darius Kandji, il faut qu'on vous quitte. Un film à revoir pour vous, aujourd'hui, de Bertolucci. Vous gardez lequel?
Le dernier tango, pour moi.
Le dernier tango pour vous, Jean Gilly.
Moi, la stratégie de l'araignée.
La stratégie de l'araignée pour Darius Kandji. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci.